Il est héroïque parce que il a un rhume très fort. Alors je vais être très bon pour lui.
Voilà, avant de reprendre le cours, on aurait une petite question à vous poser par rapport à une nouvelle école théologique qui est née en Angleterre, qui se réclame de saint Thomas d'Aquin et qui a beaucoup de succès et qui arrive maintenant dans les pays francophones. Donc le fondateur de cette école s'appelle John Milbank et le mouvement s'appelle Radical Orthodoxy. Alors, je vous lis quelques passages, d'abord de la manière dont le mouvement est né, puis après un petit peu le fond. Le mouvement est né d'une manière plus ou moins fortuite. Un certain nombre d'intellectuels anglicans, tendance High Church et catholiques romains, enseignant à Cambridge, se sont tout à coup aperçus qu'ils partageaient certaines idées qui tranchaient sur le discours théologique actuellement à la mode en Grande-Bretagne. Donc c'est un mouvement qui veut lutter contre la sécularisation. Nous nous inscrivons dans le mouvement amorcé par la nouvelle théologie, donc des années 50, dans la mesure où nous croyons qu'il existe chez tous les esprits créés, angéliques aussi bien qu'humains, un désir naturel inné pour le surnaturel. Et nous allons jusqu'à prétendre ce que laissait déjà entendre la théologie d'Henri de Lubac, qu'il n'existe aucun être libre et rationnel qui n'ait pour finalité la vision béatifique. Nous estimons en plus qu'un tel être libre et rationnel manifeste le caractère aporétique de la création, à savoir le fait que la création provient entièrement de l'être divin tout en existant réellement dans son ordre propre. Cela dit, nous en sommes bien conscients, une telle position contredit l'un des paragraphes de l'encyclique Humani Generis, qui demeure selon nous une pierre d'achoppement sur la voie de la restauration d'une philosophie authentiquement patristique et thomiste au sein de l'Église catholique. Nous refusons par conséquent les dualismes de la nature et de la grâce, de la théologie philosophique et de la théologie révélée, de la loi naturelle et de l'éthique de la charité. Nous ne croyons même pas qu'il soit authentiquement chrétien de concevoir une autonomie de la philosophie ou du séculier. Et nous ne concevons pas non plus la théologie comme une science à part traitant de sujets théologiques et procédant par déduction à partir du donné révélé conçu uniquement comme un ensemble de faits objectifs, etc.
On continue un peu. Ça, c'est commun selon les. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il agence cette nouvelle.
Bon. Le logos divin, pour nous, au contraire, ne parle qu'à travers la différence qu'il établit par rapport à tous les discours, qu'ils soient philosophiques, littéraires, mystiques, etc. Cette différence implique une ascension anagogique dont la présupposition ontologique s'enracine dans la participation de l'ordre créé à la vie de la Trinité. Dans une telle ontologie, il ne peut pas y avoir de véritable valorisation du temporel et de l'incarné. La matière se trouve de la sorte paradoxalement évacuée, vidée de sa substance, pour révéler le néant auquel elle faisait écran. La temporalité et la matière trouvent leur juste valeur seulement lorsqu'on leur a retiré toute autonomie propre pour ne les faire dépendre que de l'éternité dont elles reçoivent leur aide par participation. La reconnaissance de cette participation métaphysique constitue également le véritable fondement de la participation sociale. Car si nous croyons que nous avons une origine commune et une finalité commune, alors il devient ontologiquement possible aux êtres humains de vivre ensemble en harmonie.
Il y a un endroit qui montre le mieux. Voilà ce qui...
Alors c'est surtout, ils l'ont interrogé par rapport au sécularisme.
Oui.
Et il voudrait montrer que le sécularisme est lié à une mauvaise philosophie. Une philosophie qui, à cause de la philosophie, disent-ils, on est tombé dans le sécularisme et il faut retrouver une théologie qui combatte cet aspect-là. Et il dit que la réponse, elle est théologique.
Donc, elle implique une non-distinction entre le naturel et le surnaturel. On peut dire ça, je crois.
Oui, c'est ce qu'il dit. Oui. Hein? Oui.
C'est-à-dire que le naturel est ordonné au surnaturel. Et c'est sûr que le père de Lubac, là, il y avait des points qui étaient assez proches. Moi, je l'ai bien connu, le père de Lubac. Hein? Je racontais tout à l'heure. Mais, le père de Lubac, un jour, se retourne vers moi et me dit « Vous êtes le seul dominicain à qui je m'entends parfaitement. » Et je me suis retourné vers lui en disant que le seul jésuite avec lequel je m'entends parfaitement. Pour me montrer que nous étions tout à fait... On s'amusait entre nous. Je l'aimais parce que il avait. C'est quelqu'un qui est mort d'une façon héroïque. Le père de Lubac avait des pénitentes très douteuses, mais qu'il voyait quand même dans l'évangile de Jésus qui voit des femmes plus ou moins bien. Un beau jour, il a été porté, je crois qu'il allait pour la voir, parce qu'elle demandait. Et il est mort empoisonné chez elle. Vous comprenez que ça a fait du potin. Et je sais, j'ai dit, il est mort empoisonné. Personne ne savait s'il était empoisonné ou pas, mais il est mort. Il a eu une attaque directe, il est mort là. Et les pères jésuites, tout de suite, pour qu'on ne parle pas trop de tout ça, père de Lubac est mort chez les pères jésuites. Tu vois, son corps, on l'a déposé chez les pères jésuites. Et personne ne pouvait y aller, sauf une personne qu'il connaissait très bien, les pères jésuites sont laissés. Elle a prié auprès de son corps. Elle me dit, il était devenu noir. Autrement dit, il était empoisonné. Alors, vous voyez, alors, je crois que c'était un coup. C'est l'année où il y a eu toutes ces morts très tragiques. Une succession de morts. Père de Lubac avait une espèce de très grande liberté, mais c'était un très saint homme. Il m'a dit, il m'a raconté ça, parce que j'étais dans des positions très avancées, très neuves. On ne m'a pas fait faire de philosophie, je n'ai jamais fait de faire de philosophie, je suis jésuite. Et je n'avais pas. Et puis un jour, on m'a dit, vous savez, vous n'en avez pas service à l'Église, il faut que vous soyez beaucoup plus dans la ligne de l'Église. Et alors, il s'y est mis. Il m'a dit, moi, je ne voulais qu'une seule chose, c'est de fidèle à l'Église. Un homme très droit. Et j'avais vu pas mal, parce qu'il m'avait demandé. À Rome, on s'inquiétait un moment où les sœurs de Bethléem étaient très pro-orthodoxes. Et Rome s'inquiétait. Il en avait demandé au père de l'Imac de surveiller. Alors il m'a dit, je n'ai pas le temps, je sais que vous les connaissez très bien. Alors je vous demande de faire ça à ma place. J'ai toute confiance. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est comme ça qu'à ce moment-là, j'ai vu beaucoup les orthodoxes de Paris bien voir exactement quelle était leur position par rapport à ces orthodoxes. Je connaissais les sœurs de Bethléem assez bien pour vite me rendre compte qu'il n'y avait pas grand danger qu'ils quittent leur fidélité à l'Église catholique. Et c'est pour vous montrer qu'on avait une confiance mutuelle très profonde. Il avait évidemment, il n'avait pas beaucoup de philosophie, ça. C'est pas étonnant qu'on l'utilise pour ça, mais il serait très contre ça. Il m'a dit, comme j'avais fait, je crois qu'il était normalien, comme j'étais entré chez les pères jésuites, on m'a pas fait faire de philosophie. Tout de suite, on m'a ordonné. Il le regrettait profondément. Parce qu'il voyait que c'était indispensable. Bon. Alors, c'est intéressant. Évidemment, c'est, je crois qu'il faut voir ça d'une façon. Peut-être. C'est lui qui fait cet article.
C'est un interview du fondateur.
Ah oui. Je crois que c'est juste, c'est qu'il essaie de prendre une position plus à la fois plus divine et plus humaine. Alors le danger, c'est de dire qu'il n'y a pas de distinction, que l'intelligence humaine est faite pour le surnaturel. Oui. Et c'est pratiquement ce qu'il dit. Il y a un ordre. Saint Thomas dit que les puissances obédientielles, n'est-ce pas ? Mais c'est très délicat à préciser. Les rapports entre l'intelligence et puis la foi. Il n'y a pas un ordre normal, naturel. L'intelligence humaine n'est pas ordonné essentiellement à la foi. Tandis que, pour là, l'intelligence humaine serait ordonnée essentiellement à la foi. Alors, derrière ça, il y a toutes les positions qu'il y a eu entre le père, lui, le père, et était de père jésuite. Et puis il y avait un dominicain.
Gagnubé, le dominicain. Dominicain, c'est Gagnubé.
Gagnubé, oui. La province de Lyon. Gagnubé était un scolastique dur. Oui, un scolastique dur, c'est-à-dire pas très intellectuel. C'était comme ça. Alors, évidemment, c'est impossible que le père de Lubac comprenne ça. Il y a une grosse bataille, officiellement une grosse bataille, entre dominicains et jésuites. Parce qu'il y a toujours eu une certaine lutte entre les deux. Les dominicains voyant plus l'ordre selon la causalité formelle, et les pères jésuites voyant beaucoup plus le point de vue apostolique. comment pouvoir faire comprendre aux gens que la foi n'est pas contraire à l'intelligence, mais au contraire, elle permet à l'intelligence d'aller beaucoup plus vite. Et, donc, comme position, c'était une position apostolique, quoi. C'était pas contraire du tout.
Voyez encore juste un tout petit passage.
Oui. Ah, oui. Il me semblait que vous aviez lu des choses plus formelles. Bon, dites-moi.
Disons d'emblée que la modernité se définit par un certain mode de théologie que nous réfutons et qui a ses racines dans le Moyen-Âge. Cette théologie attribue aux êtres humains deux fins bien distinctes, l'une naturelle, l'autre surnaturelle. Ce qui a engendré, comme Henri de Lubac l'a d'ailleurs relevé, à la fois un humanisme dénué de religion et une religion coupée de tout prolongement et de tout enracinement dans le domaine culturel. Nous ne voyons rien d'inéluctable dans le phénomène de la sécularisation de la société et nous ne nous résignons pas à cet état de choses. Pour nous, la sécularisation est l'enfant naturel d'une fausse théologie et d'une fausse ecclésiologie. Il est au pouvoir de la théologie d'inverser ce processus qui en dernière analyse est intellectuelle, même si la mentalité engendrée par ces modes de pensée est profondément enracinée dans la praxis sociale. Cette mauvaise théologie, qui prit racine dans des courants issus d'abord d'Avicenne, puis de la pensée de Roger Bacon, Gilbert de la Porée, Pierre Olivier, d'Inscott et Guillaume d'Ockham, abandonna peu à peu la synthèse élaborée par le christianisme platonicien, qui considérait la nature et l'histoire comme des réalités grosses de symboles et de mystères. Elle lui substitua une conception idolâtre de la divinité qui ne voyait en Dieu qu'une sorte de super-existant, entretenant avec sa création des relations purement mécaniques, obéissant à des schèmes parfaitement définis, ainsi qu'à des lois strictes de causalité. Cette théologie donna finalement naissance à une philosophie autonome, définie par la notion d'univocité de l'être, à une notion de la connaissance conçue comme représentation, à la négation de l'existence réelle des formes idées, à la distinction bien tranchée entre la volonté et l'intellect, et à la réduction de la causalité à une influence efficiente purement extérieure. Il ne suffit pas pour cela d'un simple retour à la pensée du haut Moyen-Âge. À la suite d'Henri de Lubac, nous pensons que les plus grands penseurs de la Renaissance, Pic de la Mirandole, Nicolas de Cuse, Bérulle, combinèrent une redécouverte de l'ancienne théologie avec un intérêt renouvelé et approfondi pour la problématique relative au langage, à l'histoire, à la culture et à la cosmologie. Nous pensons également que ce courant prolonge la christianisation du néoplatonisme théurgique, selon lequel la philosophie doit se faire doxologie chaque fois que la créativité humaine coïncide avec une descente de l'inspiration divine.
Oui. Enfin, c'est le danger est de mettre une continuité trop grande entre la raison humaine et la foi. Pour montrer que la foi s'enracine dans l'homme. Ce qui est vrai. Et c'est vrai que la foi explicite ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Mais elle l'explicite gratuitement. C'est ça qu'il ne faut pas assez, il me semble, d'après ce qu'on peut lire de ce qu'il dit.
Il donne ses sources. Hein. J'éprouve une immense admiration tant pour Maritain que pour Gilson, quoique avec peut-être une préférence pour le second. C'est Gilson qui releva contre Heidegger que chez Thomas d'Aquin, la différence ontologique entre l'être et les temps n'est pas supprimée, mais reçoit une expression théologique. C'est grâce à Gilson que les éléments néoplatoniciens et intellectualistes de la pensée du docteur Angélique purent être mieux appréciés par des interprètes aussi remarquables que Joseph de Finances, Cornelio Fabro et Geiger. Il y eut par le passé et encore tout récemment de très nombreux et très excellents commentateurs de saint Thomas, bon, etc.
On ne peut pas se rendre compte exactement de sa position d'après un article comme ça. Mais c'est intéressant de voir son inspiration et d'essayer de lutter contre cette sécularisation française si forte.
Mais du coup, est-ce qu'on retombe pas dans un certain fidéisme ?
Ah, il retombe dans un fidéisme, c'est ça le danger. Mm-hmm. Je crois que le danger, c'est de retomber dans un fidéisme. On peut seul découvrir l'existence de Dieu que par la foi.
Parce qu'on a l'impression qu'il confond la sécularisation et la philosophie.
Oui, la philosophie séparée de la théologie, séparée de la foi. Donc il y a là, pour ceux qui veulent se lancer dans des choses tout à fait, voir l'erreur et l'intérêt de cette recherche. Ça, surtout pour les Anglais et les Américains. Et en quoi exactement il y a cette inspiration. Ce qui est sympathique, c'est qu'ils se veulent très conquérants. Vous voyez ? Pour eux, c'est vraiment la manière dont il faut creuser. Alors, revenons à nos moutons. Je vous avais dit à propos de la grâce chrétienne, puisque c'était ça, si vous voulez, la recherche de l'année. Puisque on était devant une thèse qui niait le caractère chrétien possible de la grâce. Parler de grâce chrétienne, ça n'avait pas de sens. Alors, la thèse était faite pour montrer que saint Thomas n'employait aucune fois grâce chrétienne. Mais on peut très bien comprendre que saint Thomas n'emploie pas grâce chrétienne parce que, pour lui, la grâce chrétienne, pour lui, la grâce nous vient du Christ. Autrement dit, la grâce de justice originelle qui a existé en Adam et en Ève. Donc, fondamentalement, qui a existé dans notre nature humaine. Nous avons une mémoire très radicale qui fait que nos ancêtres, notre ancêtre premier, qui est Adam, il est commun à nous tous. Et notre grand-mère, Ève, tous les deux ont connu le lien entre la nature humaine et la grâce première cette grâce dans laquelle ils ont été créés par Dieu faisait que la nature humaine était pleinement assumée, entièrement assumée, vers une fin surnaturelle. Et au fond, c'est un peu toujours cette nostalgie de la première grâce. Et dans ça, que Dieu lui-même avait voulu qu'il y ait un ordre entre nature humaine et grâce, en Adam. Dieu a voulu ça, puisqu'il y a une harmonie parfaite. Et c'est vrai, il y avait une harmonie parfaite entre la justice originelle et le point de vue de la nature humaine. Une harmonie. On ne dit pas exactement le caractère de cette harmonie, mais une harmonie qui fait que je n'avais qu'une seule fin, elle était surnaturelle. C'était la vision béatifique. Le péché originel, le premier péché, a fait la rupture entre la grâce et la nature. Première rupture. Rupture fondamentale. Parce que Adam avait, lui, comme chef, comme principe, il transmettait la nature humaine avec la grâce. Adam était source de la nature humaine, de la grâce. Il ne faut pas l'oublier. Et Ève aussi, comme complément de la source d'Adam. Et à partir du péché originel, coupure entre nature et l'ordre surnaturel. Voilà ce que l'Église enseigne. Le péché originel, l'Église maintient le péché originel. Malgré toutes les études qui ont été faites pour dire qu'il faudrait supprimer ça, l'Église a maintenu. Et tout de suite, il y a eu Dieu a promis que l'homme pourrait retrouver sa finalité divine. Quand vous regardez la correction que Dieu fait à Adam, à Ève et au serpent, vous voyez que Dieu promet tout de suite un secours, mais sans préciser comment se fera ce secours. Et quels sont les rapports entre la nature humaine ayant commis le péché, donc n'ayant plus la possibilité par elle-même d'atteindre cette fin surnaturelle. Dieu promet un sauveur. Et d'Abraham à Marie, on vit dans cette perspective du sauveur. Et ce n'est pas précisé exactement qui sera ce sauveur. Mais il y a espérance de ce sauveur. Et quand vous regardez le point de départ de Dieu qui précise la manière dont il va sauver l'homme, entre tous, de la Genèse, Yahvé dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et qui t'outragera, je le maudirai. Par toi se béniront toutes les familles de la terre. » Vous voyez, il n'y a aucune précision sur ce qu'est la grâce. Il y avait dit d'Abraham. On vit simplement que Dieu est intervenu directement. Et intervenu directement, on ne précise pas comment. Le comment n'est pas précisé du tout. Est affirmé, Dieu dit, Yahvé dit. Toute la révélation au point de départ, c'est ça. C'est le dire de Yahvé sur Abraham. Mais on ne précise pas du tout. Et au fond, tout l'Ancien Testament reste dans cette espérance. Peut-être que c'est le prophète Isaïe qui a précisé le plus quel sera le salut, je crois. Il y a Isaïe, et puis il y a le Cantique des Cantiques. Mais le Cantique des Cantiques, c'est tellement symbolique que c'est bien difficile. Mais je crois. L'année dernière, j'ai repris tous les prophètes. Et quand on reprend tous les prophètes, on voit que les prophètes maintiennent une espérance. Une espérance surnaturelle. Dieu va intervenir. Mais il met du temps à intervenir. Et tous les prophètes sont là pour maintenir ce secours, cette intervention. Le prophète et les prophètes ne parlent pas des rapports entre la nature et la grâce. Pas du tout. Intervention de Dieu. Intervention directe de Dieu. Intervention efficace de Dieu pour redonner à l'homme sa fin surnaturelle. De voir Dieu. Et voir Dieu, vous voyez comment c'est explicité par Abraham. C'est plutôt une bénédiction. La grâce se donne sous le caractère d'une bénédiction. Je te bénirai et je te rendrai grand, grand ton nom. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et qui t'outrageront. Je le maudirai. Par toi se béniront toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Mais la bénédiction, c'est pas précis. C'est Dieu qui bénit. Mais c'est important de voir que la grâce a été prophétisée par Dieu sous la forme d'une bénédiction. Mais qu'est-il exactement? Alors, la bénédiction va se préciser qu'au fond, par cette bénédiction, Dieu considère l'homme comme vraiment son enfant, son héritier. Alors, c'est peut-être la notion même d'héritage qui devient la plus précise. Cette bénédiction fait que Dieu nous considère comme ses héritiers. Or, être les héritiers, c'est ceux qui reçoivent de leur Père toute la richesse que le Père possède, tout l'avoir du Père est pour eux, pour qu'ils puissent mener la même vie que le Père. C'est très terre à terre, mais c'est quelque chose de très concret. Et ça joue beaucoup, hein, d'être le fils adoptif. Et un vrai fils adoptif, c'est celui qui sera l'héritier. Alors, c'est curieux, vous voyez, c'est ça. Simplement comme... C'est curieux que la grâce est d'abord montrée par la finalité. La bénédiction, c'est d'avoir la même vie éternelle, de jouir de la même vie éternelle. Et ça, c'est les héritiers. Les héritiers de Dieu vont jouir d'avoir la même vie éternelle que Dieu. Et la bénédiction regarde le bien-être actuel. Je ne crois pas que dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, c'est ce point de vue de la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que la grâce a comme premier sens d'être béni par Dieu. On reçoit la grâce, on est gracié et on est béni de Dieu. La bénédiction regarde plus la finalité que l'avoir immédiate. On est béni de Dieu quand on vivra la même vie que Dieu avec la même finalité, même héritage. Et c'est pour vous montrer que la grâce est révélé d'abord sous le point de vue d'une finalité. C'est vivre, après notre vie, la terre, une vie commune avec Dieu, avoir la même vie que Dieu. On est les héritiers de Dieu. Je ne crois pas que, en suivant uniquement la première alliance, l'Ancien Testament, on arrive à quelque chose de précis sur le point de vue de la grâce. Et, alors, mettez en parallèle bénédiction et grâce. C'est vraiment... On est béni de Dieu. Quand vous regardez les conséquences du péché, thank you. qu'as-tu fait là ? Et d'avancer. Yahvé appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Il dit, j'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il dit, qui t'a appris que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ? L'homme dit, c'est la femme que tu as placée près de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. L'amour entre Adam et Ève n'était pas tellement fort. C'est la femme que tu m'as donnée. Dis pas, c'est la femme que j'ai choisie. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as placée près de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Il avait dit à la femme, qu'as-tu fait là ? La femme dit, c'est le serpent qui m'a dupé et j'ai mangé. Et on voit la difficulté pour l'homme d'avouer son péché. On accuse celui qui lui a conduit. Le péché lui-même, la faute elle-même, on n'en parle pas, on s'excuse. C'est aussi très révélateur, ça. Parce que le péché nous met avec une mauvaise conscience. Et à fond, il y a une mauvaise conscience avec Adam. Adam a tout de suite une mauvaise conscience. Et cette mauvaise conscience fait qu'il raconte plus comment il a péché que le péché lui-même. On en est tous là. Hein. Quand on a fait un péché grave, on essaie de se blanchir. Et on essaie de se blanchir en montrant l'excuse. On raconte l'excuse. Il avait dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les animaux. Vous voyez que Dieu regarde en premier lieu le premier fauteur, c'est le serpent. Il avait dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les oiseaux et toutes les bêtes des champs, et sur ton ventre tu marcheras, poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et ta descendance. Celle-ci te visera à la tête, et toi, tu la viseras au talon. À la femme, il dit, donc, à la femme, je cite d'abord, vous voyez, c'est un langage très métaphorique, très symbolique, puisque le serpent cache le démon. Donc il y a une faute par rapport au démon, et tout de suite on voit le caractère de cette faute, c'est qu'il ne se relèvera pas. Et donc il est montré que le serpent rampe toujours sur son ventre. C'est l'image que Dieu ne relève pas le serpent de sa faute. Tandis qu'à la femme, je multiplierai ta peine et tes grossesses. C'est dans ta peine que tu enfanteras. Et à l'homme, il dit, parce que tu as donné la voix, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dessus, duquel tu avais donné ordre. Maudit soit le sol à cause de toi. Donc, la malédiction est d'abord une malédiction par rapport au comment on vit en dépendance d'un milieu. Et c'est ce milieu hostile. Car poussière tu es, et à la poussière, tu retourneras. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle a été la mère de tout. Tout de suite, on raconte la suite de l'affaire. On n'insiste pas tellement. On voit la conséquence. Il était roi du paradis terrestre, et ils sont déchus. Donc on montre avant tout le point de vue de la... Et Dieu promet, c'est la promesse. La grâce se donne d'abord comme une promesse. C'est une promesse. C'est pas sur la terre maintenant qu'on voit les fruits de la grâce, c'est une promesse. C'est comme ça qu'elle est promise. Et on voit bien que le point de vue de la révélation est tout de suite donné comme faisant partie de cette promesse. Cette promesse va se préciser une révélation. Et la révélation, c'est Dieu qui parle à l'homme de ce qu'il est et de la faute. Et durant tout l'Ancien Testament, il n'y aura aucune précision. Il faut bien voir ça. C'est qu'au fond, aucune précision sur les rapports de la nature et de la grâce. Simplement, ça doit se prendre du côté de la finalité. Tout de suite, la grâce regarde la finalité. On est appelé à vivre ce que Dieu vit. La grâce, en tant que réalité entitative, on n'en parle pas. C'est descriptif. Et la description a comme point dominant le point de vue de la finalité. Alors vous voyez, si la finalité disparaît, au fond, l'attente du Messie, c'est l'attente du salut. Et c'est le Messie lui-même qui précisera ce qu'est ce salut. Et ce ne sera qu'à partir de Jésus, de l'Évangile, qu'on peut préciser ce qu'est la grâce. Et les rapports de la grâce et de la parole de Dieu. Mais l'alliance première s'explique par des rapports courants de Dieu et de l'homme. Et la rupture s'est faite justement dans ce fait que l'homme n'est plus capable de recevoir la parole de Dieu. De sorte que je peux dire que le premier caractère de la grâce, c'est de pouvoir écouter la parole.